Bienvenue à chacun. On est content de se retrouver pour cette deuxième étude avec Jacques Yosti. Cet après-midi, on a parlé de ces deux personnages à l'opposé l'un de l'autre, ce riche et ce pauvre, avec des petites surprises dans la façon de les découvrir. J'imagine ce soir, ça va être encore le cas avec un autre texte qui est curieux. Jacques a dit ce matin, cet après-midi, que le texte qu'il avait pris, c'est parce qu'il était le plus compliqué. Alors, je ne sais pas si celui de ce soir est compliqué, peut-être, en tout cas, il l'interpelle aussi. Et moi, je vous invite à rentrer dans cette réflexion de fond sur ce texte. Je vous propose de commencer par la prière. Père, nous voulons te remercier de nous accueillir encore dans cet endroit pour entendre ce que tu as à nous dire. Nous te remercions pour ces textes qui, c'est vrai, sont parfois compliqués, parfois loin de nous. Mais nous te remercions de ce que tu as aussi suscité des personnes qui les creusent. Et nous voulons te demander d'être avec Jacques ce soir pour qu'il nous apporte ce que tu as, toi, à nous dire par rapport à ce texte. Ouvre nos cœurs et nos oreilles. Seigneur, nous voulons nous attendre à toi ce soir. Nous te prions de nous aider à comprendre ce que toi tu veux nous dire. Amen. Voilà Jacques, je te laisse la place.
Alors, cet après-midi, nous étions dans Luc. Maintenant, nous allons aller dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 20. C'est une histoire un petit peu bizarre à laquelle, le dénouement nous surprend. Alors, vous pouvez lire à partir du chapitre 20 et à partir du verset 1, cette histoire qui va jusqu'au verset 16 avec la conclusion, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, assez curieusement, dans cette histoire, je ne vais pas la lire, nous irons nous coucher relativement tôt. Alors, mais vous l'avez certainement déjà lu, cette histoire, c'est bizarre, il y a un maître vigneron qui embauche des ouvriers à différentes heures de la journée, et puis au coucher du soleil, il donne à chacun la même somme d'argent, ce qui contrarie profondément le premier groupe qui a transpiré toute la journée. Et puis alors le maître répond à l'un d'eux, à leur porte-parole. Qu'est-ce que cette histoire veut dire? Alors, généralement, on l'appelle la parabole du vigneron et de ses ouvriers. Un titre qui accorde autant d'importance aux ouvriers qu'au maître, qu'au vigneron. D'ailleurs, on retrouve cette même confusion dans d'autres paraboles. Par exemple, la parabole du fils prodigue. Il semblerait que c'est le fils prodigue qui est le héros de cette affaire, alors qu'en fait, ce n'est pas lui, mais c'est son père. Donc, cette parabole ici devrait vraiment s'appeler le grand propriétaire compatissant, parce qu'il est vraiment, question de compassion et combien ça tombe à pic, puisque maintenant, on entend le mot « crise » sans arrêt, on entend qu'il y a sans arrêt davantage de gens qui sont laissés pour compte, qui vont dans les restaurants du cœur ou qui font la manche dans les grandes villes et même dans les petites, devant les églises. Donc, ce grand propriétaire compatissant, en fait, il a des leçons à nous donner. Et il a des leçons à nous donner qui devraient nous interpeller. Il a même des leçons à donner aux petits, aux moyens et aux grands. Alors, ce grand propriétaire, c'est lui l'acteur principal, à cause de son caractère tout à fait remarquable. Durant toute cette longue journée, cette histoire dure toute une journée, le Seigneur qui raconte la parabole met en avant la compassion de cet homme qui a le cœur sur la main pour les journaliers, c'est comme ça qu'on les appelait. Ils travaillaient un jour, ils étaient payés pour un jour. Ils ne savaient pas si le lendemain, ils seraient réembauchés. Pour ce qui est de la sécurité de l'emploi, il faudra trouver autre chose. C'est comme ça que ça se passait. Donc, cet homme, ce maître, a de la compassion pour les journaliers qui sont sans travail. Alors, si je ne me trompe pas, le nombre de chômeurs est en train d'augmenter tous les mois, en parlant de la France. Donc, dans ce sens, ça nous interpelle peut-être aussi. Ce souci sincère se manifeste à la fin de la journée par une générosité étonnante. Alors, voilà donc devant vous un tableau qui, on se demande qu'est-ce qu'il veut bien dire. Alors, il va falloir que vous voyez ici qu'il y a six morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais en fait, il en manque un septième. Cette parabole qui est devant vous, au chapitre 20, a sept grandes sections. Voilà. En voilà six. Tu veux montrer la septième? Et voilà la septième qui, elle-même, est divisée en sept portions. Pourquoi ? Parce que c'est un passage du Nouveau Testament qui a été très travaillé, qui est écrit sous forme poétique, mais selon l'une des formes de la poésie hébraïque qui ne correspond pas à ce que nous connaissons en poésie dans notre pays. Alors donc, vous voyez, il y a donc sept parties. Donc la première diapo montre les six premières parties, et la septième est beaucoup plus longue que les six autres. C'est un peu comme dans les béatitudes où il y en a une qui est nettement plus grande que les autres. C'est le même principe. Alors nous revenons à la précédente. Donc vous voyez que sept, c'est décomposé en sept. Alors c'est pas par hasard. Elle est construite en sept scènes. Donc, selon ce qui s'appelle la trame prophétique traditionnelle, parce que beaucoup de prophètes construisaient une partie de leur prophétie selon ce modèle, en sept. Voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Alors, cette trame prophétique, il y a un exemple typique qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Alors maintenant, nous allons passer à une diapo du livre d'Ésaïe, et où nous allons apprendre comment est fabriquée la trame prophétique traditionnelle. Voilà de quoi il est question dans ce passage. Alors ce passage de 1 à 7, vous l'avez dans vos Bibles, exactement comme il est ici. Seulement moi, je l'ai décomposé en ces sept parties. Et ces sept parties ont un titre, c'est-à-dire qu'il y a sept thèmes différents. Donc nous sommes dans Ésaïe chapitre 28, vous avez les références des versets. Il est question, le sujet, c'est une prophétie. Ésaïe annonce une invasion assyrienne qui eut lieu en l'an 701 avant Jésus-Christ. Une invasion assyrienne du royaume de Juda, c'est donc le royaume du sud, puisque Israël était séparé en deux royaumes différents. Il est question de mort dans ce passage. La mort est égale à l'Égypte. Il faut savoir ça pour comprendre la prophétie. Bon, pourquoi j'ai mis Luc 6 là-bas? Parce que dans ce passage de Luc 6, où c'est Jésus qui parle, Jésus s'est inspiré de cette prophétie pour parler de la personne qui a bâti sa maison, l'une sur du roc et l'autre sur du sable. Voilà pourquoi j'ai entre parenthèses Luc. Voilà, j'attends que ça descende. Donc, maintenant, il y a un titre pour chaque idée, pour les sept idées différentes. Alors, vous voyez que le premier, c'est pacte avec la mort, parce que Judas avait fait un pacte de défense commune avec l'Égypte au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. Donc, c'est un reproche que Ésaïe fait à son peuple, et en particulier aux autorités de Judas. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le pacte avec la mort. Et voilà ce que Ésaïe dit à ses contemporains. Vous dites, etc., nous avons fait un pacte. C'est Ésaïe qui remplace le mot Égypte par la mort, pour bien souligner ce qu'il pense, lui, prophète de l'Éternel, de cet accord qu'ils ont passé avec l'Égypte. Deuxièmement, qui est toujours dans le même verset, d'ailleurs 15, nous avons le mensonge pour refuge et la fausseté pour abri. Ça, c'est, il leur reproche ici une conduite morale. Et donc, ça a pour titre le refuge. Ensuite, vous voyez que la troisième partie de cette prophétie parle des matériaux de construction, des matériaux avec lesquels on construit. Le centre des sept thèmes, c'est le point d'orgue, c'est la déclaration. Donc, c'est un encouragement à mettre sa foi dans l'Éternel. Celui qui le prendra pour appui ne sera pas confus ou n'aura pas hâte de fuir, selon les différentes versions. Alors maintenant, notez que 5, 6 et 7, la 5, au lieu du matériau de construction, c'est outil de construction. C'est-à-dire que la 3 et la 5 sont en parallèle. La 2 et la 6 sont en parallèle. Dans la 2, ils disent, voilà comment vous vous comportez. Vous prenez le mensonge et la fausseté pour abri. Et voilà ce que moi je dis, votre refuge sera détruit. Donc c'est une interprétation de la prophétie d'Ésaïe. Et la 7e répond à la première, vous avez fait un pacte avec l'Égypte, ce pacte ne vous mènera à rien. Donc ceci c'est, en soi ça n'a rien à voir avec la parabole du vigneron, sauf que c'est construit. C'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, cette parabole est construite sur ce modèle qui est un modèle type et qui s'appelle la trame prophétique. C'est donc ce que je vous montre ici, c'est plutôt un enseignement de la structure d'une prophétie qui est faite sous forme poétique. Poésie selon le modèle, l'un des modèles hébraïques. Maintenant, nous passons au vigneron. Parce que la parabole du vigneron et de ses ouvriers est construite sur le même modèle. Mais non seulement elle est construite sur le même modèle, vous avez les sept de nouveau, puisque la deuxième diapo, comme elle est plus grande que les autres, elle n'est pas devant vos yeux. Mais ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que la première répond à la septième, la deuxième à la sixième, et le point d'orgue se trouve ici, et il est mis en valeur par sa centralité, et qu'est-ce que c'est ? Paye le salaire. Le centre de cette parabole du vigneron et de ses ouvriers, c'est ça. Qu'est-ce que le salaire ? Le salaire, c'était un denier par jour. C'était la quantité d'argent qu'il était nécessaire de posséder pour vivre. Voilà la définition de le salaire. Alors, dans cette parabole, ce qui est intéressant, c'est que les sept thèmes apparaissent deux fois. La diapo suivante, qui est la septième, tu veux la mettre, est elle-même décomposée en sept. Toujours selon le même principe, le 1 répond à la 7. J'ai mis ça entre parenthèses. Hein, par exemple, la 1, il dit « je suis juste », ça répond à la 7 qui dit « je suis bon ». Ce qui est souligné, l'accord qui est respecté, fait partie, est le thème général de la 7 qui répond à la 1 de la diapo précédente. La 6 répond aux 2. Tu ne respectes pas l'accord quand il parle au porte-parole des gens qui se plaignent. Alors que nous nous sommes mis d'accord. Avant que je t'envoie à ma vigne, nous nous sommes mis d'accord. Et maintenant, tu n'es plus d'accord. Voilà comment que ça se répond. Et c'est la même chose, la 3 et la 5 se répondent dans le sens, je t'ai donné ton denier, va-t'en. Tu fais ce que tu veux avec ton fric. Moi, je fais ce que je veux avec mon argent. Tu fais ce que tu veux avec ton argent, je fais ce que je veux avec mon argent. Donc ces deux phrases, ces deux thèmes se répondent. Et le point d'orgue, le centre de cette septième thèse est encore le salaire. Donc le centre de cette parabole, c'est le salaire, le denier. Ce que j'ai besoin pour vivre. Après, j'ai besoin d'un denier par jour pour vivre. Et ça apparaît deux fois dans la parabole. La quatrième section de la diapo d'avant, qui est le centre des sept, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça apparaît encore ici au centre de la septième. Donc vous voyez qu'il y a une répétition à l'intérieur de la parabole, il y a un élément qui se répète. Donc c'est ce qui montre que cette parabole a été très travaillée. Donc c'était très travaillé pour frapper les esprits. C'était une façon de réveiller les gens de leur stupeur spirituelle. Et cette parabole, il se trouve qu'elle est plus particulièrement dirigée contre les pharisiens. Les pharisiens qui étaient donc la classe supra-religieux, orthodoxe, ceux qui plaçaient des bombes de l'époque. Bon, maintenant, voyons voir de quoi il est question dans cette parabole. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est simplement la structure, comment elle est construite, pour que vous voyez que lorsque vous lisez la Bible, il y a davantage dans ce que vous lisez que ce que vous voyez tout de suite. C'était simplement cela. Par exemple, donc pour vous montrer aussi que le point central de la parabole, c'est le salaire, le denier dont j'ai besoin pour vivre aujourd'hui et qui apparaît deux fois. Et parce qu'il est en plein centre, deux fois. Donc ça, c'est la structure de la parabole. Maintenant, on va aller dans la parabole. Donc cette parabole est construite en sept scènes selon la trame prophétique qu'on appelle traditionnelle et qui était déjà vieille de plus de 1000 ans au temps de Jésus. Donc je répète que les trois premières strophes correspondent aux trois dernière, mais tandis que le point d'orgue est la quatrième au milieu, où on a droit. Alors si on reprend, donc le point d'orgue est ici. Alors regardez bien le point d'orgue de la parabole. Ici, en plein centre, on a droit à des surprises. On a droit à trois événements inattendus. Trois événements inattendus qui sont ici. On va les voir. Alors, ce petit drame, cette petite histoire, je ne vais pas la lire, des gens... ça suscite des questions, il y a des surprises et ça soulève des passions. Tout ça en une journée. un vigneron a besoin d'ouvriers pour sa vigne, probablement pour tailler sa vigne. Bon, d'accord. Il se rend donc à un coin de rue du village et où se rassemblent tous les jours ceux qui cherchent du travail. C'est ce qui se fait encore d'ailleurs à la porte de Damas de Jérusalem quand ils ne sont pas en train de se battre. Donc voilà, le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, embauche des ouvriers et il se met d'accord. Donc c'est le premier, c'est le thème du numéro un, c'est il se met d'accord avec les ouvriers, on a un contrat oral. Mais un contrat oral, c'est autant valable qu'un contrat écrit à cette époque. Vous allez travailler à ma vigne, je vous paye le salaire qui est un denier par jour, par ouvrier. C'était comme ça que ça se faisait. Il fallait ça pour vivre. Ils acceptent et ils espèrent que le lendemain, ben, ils trouveront encore du travail. Peut-être que le même maître les embauchera ou un autre. Ça se faisait comme ça. Comme je l'ai dit, pas de sécurité d'emploi. Il sortit vers la troisième heure. Alors, le premier verset, c'est tôt le matin, c'est-à-dire au lever du soleil. Les Juifs ne travaillaient pas avant le lever du soleil. Il sortit vers la troisième heure, ce qui correspond à 9 heures du matin. D'accord ? Il sort à la troisième heure. Et il envoie d'autres qui étaient debout sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez-vous aussi à la vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Donc ici, il leur dit simplement, je vous donnerai ce qui sera juste. Ils y allèrent, ils sortirent de nouveau vers la sixième heure, c'est-à-dire à midi. Et puis vers la neuvième heure, c'est-à-dire à 15 heures, et il fit de même. Versets 3 et 5. Bon, il revient à 9 heures, il s'aperçoit qu'il y a des ouvriers qui sont en manque de travail. Alors remarquez, parce qu'il faut tout remarquer hein, dans la parabole, remarquez que ces gens-là qu'il va chercher, ils ne sont pas assis en train de se prélasser au soleil à faire une siesta. Ils sont sur le qui-vive, ils sont debout, ils sont prêts à bondir en direction d'un patron qui les embauchera. Ils sont prêts à faire n'importe quoi et espèrent encore qu'on les embauchera. Il faut bien remarquer ça, c'est important. Alors, chaque fois le maître choisit de nouveaux ouvriers, mais remarquez bien, il faut tout remarquer, que le maître ne leur dit pas combien il les payera. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Il dit, je vous donnerai ce qui est juste. Bon, est-ce que la confiance règne ? Les hommes acceptent parce que la confiance règne. Les hommes acceptent parce qu'ils connaissent ce maître vigneron et parce qu'ils lui font confiance que c'est un homme juste et qu'il leur donnera ce qui est juste. De plus, mettez-vous à leur place, en allant travailler, ils échappent à l'humiliation d'être un demandeur d'emploi et ils auront de l'argent en poche pour leur famille. Alors, on peut se demander quand même pourquoi le maître vigneron fait une seconde embauche. Enfin, il est un peu vide là-haut. Ne savait-il pas de combien d'ouvriers il avait besoin ? Ne sait-il pas quelle est la grandeur de sa vigne ? Rien dans l'histoire ne suggère qu'il est jeune ou inexpérimenté. Donc non, là n'est pas la raison. Alors pourquoi revient-il toutes les trois heures pour chercher d'autres ouvriers ? La meilleure réponse possible est qu'il a de la compassion pour les sans-travail. Il n'est pas spécialement... Vous savez, quand on taille la vigne, je sais bien, c'est pas marqué qu'il les a embauchés pour tailler la vigne, mais en fait, quand on y réfléchit bien, on voit pas très bien qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire. Mais quand quelqu'un décide de tailler sa vigne, il est pas pressé. C'est pas comme quand il ramasse du raisin. Il faut ramasser le raisin quand il est mûr, avant que les guêpes ne les dévorent, avant que les animaux ne viennent les prendre. Là, il a le temps. Il a le temps. Donc, il a pris quelques ouvriers pour commencer à tailler sa vigne. Et il espérait que les autres qui attendent à la porte de Damas, si c'est là-bas, seront embauchés par quelqu'un. Il retourne, on ne sait pas où, et puis ça le turlipine. Et donc, au bout d'un moment, il se dit, je vais aller voir. J'espère que je trouverai personne. Et il retourne donc sur la place du village, à la porte de Damas, et il voit encore beaucoup d'ouvriers. Donc, la meilleure réponse, c'est qu'il a de la compassion pour les sans-travail. Il a vu une grosse troupe en début de journée, il espérait que tous seraient embauchés par divers patrons, mais ces hommes qui font la grue lui trottent dans la tête. Alors il revient à 9 heures pour s'assurer que tout le monde a du travail et donc de quoi faire vivre leur famille. Surpris que ce n'est pas le cas, il en embauche encore quelques-uns. À midi, il est convaincu que maintenant, tout le monde a du travail, mais il veut s'en assurer et retourne une fois encore. Il est encore surpris et il en embauche encore d'autres. À 15 heures, le même scénario se répète. Ce maître vigneron fait décidément tout en son pouvoir pour venir en aide à ses pauvres hères, et chaque fois il dit la même chose. Je vous donnerai ce qui est juste. Mais que veut dire être juste? La réponse ne nous est pas donnée dans cette parabole. Qu'est-ce qui est juste? Alors maintenant, on commence à faire une petite application. Qu'est-ce qui est juste pour un chômeur qui fait tout en son pouvoir pour trouver un travail jusqu'à être humilié à faire le planton à un coin de rue? Non, mais je vous pose la question, vous avez pas besoin de me répondre, mais vous êtes peut-être ouvrier, vous êtes peut-être patron, mais qu'est-ce qui est juste? Tout ce qu'il dit à ces gens qui l'embauchent, à partir de 9 heures du matin, je vous donnerai ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? On continue là, vers la 11e heure, c'est-à-dire à 17 heures. Hein? On a déjà 17 heures, on a déjà pris le thé, on commence à relaxer, c'est la fin de la journée, il revient. Vers 17 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » Et il leur dit, « Allez vous aussi dans la vigne. » Ou « Allez vous aussi dans la vigne, » leur dit-il, c'est les versets 6 et 7. Finalement, une heure avant le coucher du soleil, le maître revient pour la cinquième fois au coin de la même rue. Et il trouve encore des hommes qui maintenant doivent être profondément déprimés parce qu'ils sont restés plantés là, debout, à attendre sans être embauchés. Le vigneron pensait qu'une heure avant la fin de la journée de travail, tous seraient rentrés chez eux découragés, la tête basse. Parce qu'ils auraient dû annoncer à une épouse angoissée et des enfants affamés la mauvaise nouvelle d'une autre journée frustrante sans travail. Le maître leur demande, que faites-vous là? Contre tout espoir, nous espérons encore que quelqu'un nous embauchera. Nous voulons travailler et nous ne rentrerons qu'à la nuit tombée. C'est vraiment l'attitude de ces gens-là. Nous sommes à 5 heures de l'après-midi et ils sont encore là à faire le planton. Ils ont dans une situation sans espoir, mais ils ne vont pas partir, apparemment, avant le coucher du soleil. Ils ne font pas la manche, remarquez bien, ils ne font pas la manche, et lui, le patron, enfin le maître vigneron, ne veut pas les humilier davantage par un geste de pitié et leur balancer une pièce, n'est-ce pas? Il leur donne ce qu'ils veulent plus que tout, du travail. Mais là, il ne leur promet strictement rien. Remarquez qu'il ne dit même pas « Je vous donnerai ce qui est juste ». Il ne dit rien. Il les envoie à sa vigne. Un point, c'est tout. Et remarquez aussi, dans la parabole, qu'ils y vont. Pourquoi ils y vont? Parce qu'ils ont confiance dans cette personne. Ce maître vigneron, on ne sait rien de lui. Mais on sait beaucoup de lui, on apprend qu'il est par l'attitude de ses ouvriers qui cherchent du travail vis-à-vis de lui, ils lui font confiance. Même à 5 heures de l'après-midi, ils sont prêts à aller travailler une heure à sa vigne. Ils doivent s'arrêter au coucher du soleil. Ils partent donc à la vigne. Pendant toute la journée, ils ont observé le manège du maître vigneron qui revenait toutes les 3 heures, qui en embauchait quelques-uns, et ils ont compris, il ne fait aucun doute qu'ils comprennent que cet homme revenait parce que ça le travaillait et qu'il revenait parce qu'il avait, ça lui faisait mal au cœur. Il avait de la compassion pour eux. Et ils se rendaient compte qu'ils étaient humiliés, ils étaient là à attendre, c'est très humiliant, et ils voulaient travailler pour gagner honnêtement leur vie. À la fin de cette étrange journée, 5 différents groupes d'hommes, 5, sont au travail. Le premier avait un contrat, le salaire, 1 denier, ce qu'il faut pour vivre pour une journée. Donc, il y en avait un groupe qui avait un contrat. Les 3 groupes suivants, le maître a simplement dit « Je serai juste avec vous ». Il n'a rien promis du tout, il a juste dit « Je serai juste ». Et au dernier, il n'a rien dit, il n'a rien promis, il leur a juste dit « Ma vigne, c'est là-bas ». Et ils y sont allés. Et ils n'ont sans doute même pas travaillé une heure, on ne sait pas, mais guère plus, et ils y sont allés quand même parce que, c'est quand même important de le répéter, ils avaient confiance en cet homme. Le soir venu, le maître, verset 8, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. C'est là où nous avons 3 surprises. Boum, d'un coup d'un seul. Le lecteur est interloqué, s'il regarde de près, de voir entrer sur scène un intendant. Il sort d'où celui-là ? C'est son job d'aller recruter des ouvriers et de s'occuper à ce que le travail soit fait. Il sort d'où celui-là ? On se demande pourquoi, jusqu'à présent, il n'a rien fait ou était occupé ailleurs, il était à la pêche. Deuxièmement, le propriétaire choisit de donner le même salaire ou le salaire, 1 denier, à tous les ouvriers. C'est répété, comme je vous l'ai dit, 2 fois, cette histoire de gagner 1 denier, le salaire. C'est répété ici, au numéro 4, et au milieu du numéro 7. Même à ceux qui n'ont travaillé qu'une petite heure, à peine. Troisièmement, la troisième surprise, c'est que le maître inverse l'ordre naturel, normal, celui auquel on s'attend. L'ordre normal selon lequel les ouvriers devaient être payés sont inversés. Il doit avoir de bonnes raisons d'agir ainsi. Alors, remarquez bien que on pourrait aussi penser que ce maître vigneron est drôlement bon pour se compliquer la vie. Parce que s'il avait payé le salaire convenu au premier groupe d'hommes, ceux-ci auraient touché le prix du contrat de 1 denier et ils seraient partis contents chez eux. N'est-ce pas? Mais non, il voulait. Apparemment, ça lui convenait pas d'agir ainsi. Chaque groupe suivant, ensuite, se serait senti comblé de recevoir 1 denier, et toute cette troupe qui a travaillé pour le maître vigneron l'aurait loué aux anges. Ah non, c'est vraiment compliqué la vie. Il n'y aurait pas eu d'éclat de voix autour de la table, parce qu'il y avait une table où l'intendant, c'est lui qui donne la paye, et n'y aurait pas eu d'éclat de voix, il n'y aurait pas eu d'esprit froissé. Tout le monde aurait été content, satisfait. Alors on se pose la question, hein, pourquoi Jésus a choisi de donner cette parabole avec ce maître vigneron qui veut se mettre à dos les ouvriers de la première heure? Il est évident que le maître veut que ceux qui ont travaillé toute la journée sous la chaleur du soleil du Moyen-Orient voient avec leurs yeux la grâce qu'il accorde aux autres. Cette parabole est dite à l'encontre des pharisiens. C'est une parabole qui sert à illustrer plusieurs vérités. La cinquième portion arrive ceux de la onzième heure. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le lecteur peut sentir la tension monter dans le premier groupe qui attend, tandis qu'ils observent ce qui se passe devant eux. Ce premier groupe, ouais, c'est vrai, hein, ils subissent une série de chocs. D'abord, ils voient que ceux de la onzième heure reçoivent le salaire d'une journée de travail. Ensuite, ils remarquent coup sur coup que ceux de la neuvième heure, puis de la sixième, puis de la troisième, ne reçoivent pas davantage. Ils reçoivent un denier. Alors là, ils commencent à s'agiter parce qu'ils pensaient que ceux de la troisième heure recevraient au moins 50% de plus que les précédents. Mais ce n'est pas arrivé. Les premiers vinrent ensuite, versets 10 et 12, pensant recevoir davantage. Mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » C'est pas juste! C'est ça qu'ils disent, c'est pas juste. Ah, d'accord. Les premiers arrivent reçoivent exactement ce qui leur avait été promis, ce qui avait été convenu. Le contrat est respecté. Un denier, nous avons convenu un denier, vous prenez votre denier. Alors, mais ils voient pas les choses comme ça, ils voient rouge. Le même salaire pour le même travail est une admission implicite de ce qui est juste, vieille comme le monde. Et là, justement, la parabole, elle écorche cette admission implicite. Mais là n'est pas le débat de cette parabole, en fait. Cette parabole présente ceux qui ont été surpayés. Elle ne présente pas ceux qui reçoivent leur juste salaire. Ceux qui ont travaillé toute la journée et qui ont touché leur denier, ce n'est pas d'eux qu'on parle. Elle se focalise sur les autres qui sont les surpayés et qui ont fait donc l'objet de la compassion du maître vigneron. Mais ce n'est pas du goût des ouvriers du premier groupe. Alors, pensez pharisiens. Cette parabole est dirigée contre les pharisiens, et les pharisiens, ce sont ceux qui sont allés travailler au début de la journée. C'est eux qui sont furax. C'est eux qui n'aiment pas que le maître vigneron fasse grâce aux autres. Ce n'est pas du goût des ouvriers du premier groupe qui sont envieux parce qu'ils pensent mériter davantage. Pensez aux pharisiens, comment ils respectaient non seulement les moindres iotas de la loi de Moïse, mais ils en avaient ajouté des tonnes qu'ils respectaient et ils ils appelaient le peuple, le petit peuple, qui, lui, n'avait pas le temps, le loisir, la capacité de respecter toutes ces règles, ils les appelaient les maudits. C'est à eux que s'adresse cette parabole. Elle s'adresse aux propres justes. Alors ces pharisiens, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé toute la journée, avec qui le maître vigneron avait un contrat, ils ne sont pas contents. Et ils le font savoir. Mais pourtant, remarquez bien qu'ils ne sont pas lésés. Il est juste, le maître vigneron. Ils ne sont pas lésés, personne ne l'a été dans cette histoire. La plainte, tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur, émane de ceux qui ont reçu un juste salaire, mais qui ne peuvent accepter la grâce. Alors pourquoi je fais que me répéter? Parce que quand vous lirez ou quand vous lisez les évangiles, les pharisiens, ils apparaissent sur toutes les pages. Alors maintenant, je suis en train de vous les décrire. Et voilà ce que Jésus pensait des pharisiens dans cette parabole. Donc, ils ont reçu ce qui était convenu avec eux et ils ne peuvent accepter le principe de la grâce. Remarquez que c'était aussi l'attitude du frère aîné de l'enfant prodigue. Vous vous rappelez, le frère aîné? Il n'a pas pu encaisser le fait que le père a reçu le fils qui avait dilapidé le fric du père et qui avait fini dans la porcherie. Et pour un juif, on ne pouvait pas tomber plus bas que de travailler dans une porcherie. Ce n'était pas possible. Et que le père l'accueillait à bras ouverts. Quand il est venu, il sentait le cochon. Et le père, il l'a quand même embrassé. Et il a même couru le père, ce qui était un signe de disgrâce dans le Moyen-Orient de courir. Et le frère aîné n'a pas pu l'accepter. C'est pareil ici. Les ouvriers de la première heure, ils n'arrivent pas à l'accepter. Donc, selon la perspective capitaliste du monde, c'est là où nous vivons. Surtout à côté de la Suisse. La valeur de l'être humain est fixée par la loi du marché. C'est vrai, hein, c'est comme ça. Hein, si tu es doué dans ta tête, tu touches davantage. Si tu as des gros bras, tu touches davantage. Et elle est proportionnelle. La valeur de l'être humain est fixée par la loi du marché et elle est proportionnelle à ce qu'il peut produire ou au montant de son salaire. Parce qu'il y en a qui produisent rien et qui sont bien payés, mais ils sont quand même bien vus. La grâce ne fonctionne pas du tout selon le principe capitaliste. C'est bien un enseignement de cette parabole. La grâce est un concept merveilleux, mais elle rend aussi certains individus jaloux, furieux. Le maître vigneron répond, pardon, le maître vigneron répond au cri « pas juste » qui fuse du premier groupe. Et nous arrivons à la septième partie de cette parabole. Monsieur, je ne te fais pas de tort. Je suis juste. Voilà ce qu'il dit. N'as-tu pas été d'accord? Nous avions un accord et je l'ai respecté. N'avions-nous pas un accord pour un denier? Prends ce qui est à toi. Prends ton denier, ce qui est à toi. Le point d'orgue de cette septième partie maintenant, je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Tout le monde reçoit le salaire, le denier, l'argent nécessaire pour vivre pour une journée. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux, ce qui est à moi? Tu prends ce qui est à toi, je prends ce qui est à moi et j'en fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux avec ton denier, je fais ce que je veux avec ce qui est à moi. Ou vois-tu de mauvais œil, tu es jaloux, que je sois bon. Moi je suis bon, va avec la première phrase, « Je suis juste ». Vous voyez ça? C'est pour ça que je les ai mis. La façon dont les différentes phrases se répondent est entre parenthèses. J'ai donné un titre. Le maître n'appelle pas l'ouvrier qu'il a interpellé « ami », mais utilise une apostrophe pour quelqu'un qu'on ne connaît pas et lui dit quelque chose comme « vous n'avez aucune raison de vous plaindre, j'ai été juste, j'ai été droit, j'ai été réglo avec vous. J'ai honoré mon contrat en vous donnant ce que je vous avais promis. Vous faites avec votre argent ce que vous voulez et moi je fais avec mon argent ce que je veux. Je veux que tous les autres hommes puissent rentrer dans leur chaumière, la joie au cœur et avec la même quantité d'argent que vous dans leur poche. Je suis juste, ce qui veut dire que je respecte la dignité de ceux qui sont dans le besoin et je suis compatissant à leur égard, je souffre avec ceux qui souffrent et je fais ce que je peux pour les aider. » C'est véritablement ce que le maître vigneron a démontré. Suite au discours du maître vigneron, la parabole s'arrête abruptement. Elle ne finit pas, elle s'arrête. Qu'ont fait les ouvriers de la première heure? Sont-ils partis? Ont-ils continué à se plaindre? Sont-ils allés devant les prud'hommes? Nous ne le savons pas. Les auditeurs doivent terminer eux-mêmes ce mini-drame en l'appliquant à leur situation personnelle. D'ailleurs, il y a plusieurs paraboles et histoires racontées par Jésus qui s'arrêtent comme ça, on pourrait dire en queue de poisson, je ne sais pas pourquoi on dit en queue de poisson, brutalement. Qu'a fait le frère aîné de l'enfant prodigue? Vous avez vu comme s'arrête la parabole de l'enfant prodigue? Ça s'arrête, elle ne se termine pas, ça s'arrête. Boum, Jésus l'arrête. Qu'est-il arrivé au bon samaritain et au voyageur rué de coups? On lit cette histoire. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de suite. Au moins à la télé, vous dites, faut que j'attende la semaine prochaine. Tous les mercredis soirs à 20h30, il y a mon feuilleton. Au moins j'aurai la suite la semaine prochaine. Il n'y a pas de suite. Ah non, 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 vous pouvez chercher dans les... Il n'y a pas de suite, ça s'arrête. Boum. Le texte de notre parabole conclut avec une parole de sagesse. Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus ne dit pas qui sont les premiers. Jésus ne dit pas qui sont les derniers, mais moi je vais vous le dire. Les premiers, ce sont les pharisiens. Et les derniers, ce sont les publicains et les gens de mauvaise vie. C'est ce qui est arrivé ici, donc, et c'est un peu l'équivalent de la fin de la parabole de la brebis perdue aussi. Vous vous rappelez cette brebis qui est perdue? Quand Jésus conclut, il dit « Il n'y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin ou qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. » C'est la brebis perdue qui fait la joie du ciel. C'est la brebis perdue qui arrive la première. Et dans l'histoire de l'homme qui envoie ses... Il y a aussi une autre histoire de Jésus. Il envoie ses deux fils travailler. Jésus a conclu en disant, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Ce sont eux, les derniers, qui arrivent les premiers. Alors cette parole au niveau de l'éthique, on a vu au niveau de la poésie hébraïque, la structure prophétique, la trame prophétique, au niveau de l'éthique de cette parabole, les ouvriers sans travail, remarquez qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour trouver du travail selon les modalités de leur temps. Le comportement du maître est un modèle à suivre. Il respecte la dignité de ses chômeurs, les encourage à persévérer par ses visites et par des embauches successives, et s'assurent que leurs besoins élémentaires sont satisfaits. On est loin du capitalisme sauvage dans lequel nous vivons dans les pays occidentaux et puis au Japon. Il offre du travail, pas de la charité. Il offre du travail, pas de la charité. Et il donne une leçon de compassion aux fanfarons envieux. D'un point de vue théologique, cette parabole est dirigée donc contre les pharisiens, ceux qui se plaignent, à qui Jésus dit de déguerpir et de laisser les autres tranquilles. Ces religieux passaient le plus clair de leur temps à définir et à raffiner la loi de Moïse. Elle n'était pas comme il fallait. Il manquait toujours un petit plus. Ils y ajoutaient de nouvelles règles qu'ils voulaient imposer à tout le peuple, tandis qu'eux-mêmes, les pharisiens, vous allez penser que je ne les aime pas, s'enorgueillissaient de leur obéir, d'obéir à toutes ces règles. Dans le système religieux que les pharisiens, encore eux, avaient mis en place, il n'y avait pas de pardon possible pour les gens de mauvaise vie ou pour la femme adultère. Parce que dans leur système, il fallait toujours rendre l'offense que tu avais commise. Mais il y a des offenses, c'est trop tard. On ne peut rien, on ne peut pas revenir en arrière. Mais dans leur système, il n'y avait pas de pardon, il n'y avait pas de grâce. Et c'est ce que Jésus leur reproche. Les pharisiens voyaient Jésus accueillir le bas peuple et les pécheurs et les élever au même niveau ou même à un niveau supérieur qu'eux-mêmes. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Et ça, ils ne pouvaient pas l'encaisser. Ils étaient vexés un maximum à cause de leur orgueil. Sur la croix, le brigand a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui a répondu, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est vraiment la grâce. À lui, c'était temps. Il ne restait plus beaucoup de temps pour rentrer. Mais ça, c'est vraiment la grâce. C'est vraiment le dernier. On peut difficilement venir plus tard. La porte est en train de se fermer. Et ce bandit repentant, il a eu la bonne... il devait connaître quelque chose de Jésus. Il a eu la chance. La chance, c'est-à-dire que c'est une chance arrangée par Dieu quand même, d'être crucifié. Bon, si on dit la chance d'être crucifié, on dit... Mais la chance d'être crucifié à côté de Jésus, alors là, oui, c'est vraiment une chance. Parce que vous remarquez, c'est un passage extraordinaire, parce que Jésus, il y a des gens qui lui ont posé des questions, et il ne leur a pas répondu, mais au brigand sur la croix, alors que Jésus était en train de souffrir, le brigand lui dit, « Souviens-toi de moi. » Jésus lui a répondu tout de suite. Jésus lui a répondu tout de suite. Le brigand a juste dit, « Souviens-toi de moi. » Il a eu vraiment un acte de foi. « Je crois vraiment en toi. » Je ne sais pas qui tu es, mais je crois vraiment en toi. « Souviens-toi de moi. » « Je me souviens de toi. Je me souviendrai de toi. » Tout comme le vigneron, Dieu ou Jésus est juste. Mais sa justice, heureusement pour nous, n'est pas stricte. Il ne nous traite pas comme nous le méritons, ou alors où serions-nous? Un psaume dit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » L'histoire de Zachée, vous rappelez le Zachée qui était tout petit, un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, on les aimait pas beaucoup, il monte sur un arbre pour voir Jésus. Cette histoire se termine par « Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. » Les derniers. Jésus nous aime tel que nous sommes et vient à nous où nous vivons. Et vient à nous où nous sommes. Merci pour votre attention. Je n'ai pas dépassé l'heure aujourd'hui, ce soir. C'est bien. Seigneur, nous te remercions pour ta parole une fois encore et pour cette parabole qui est phénoménale, qui est fantastique. Non, sa structure est étonnante, très travaillée, et aussi l'enseignement qu'elle donne est merveilleux, et c'est une joie de pouvoir se plonger dans ta parole et de pouvoir essayer d'en tirer tous les lingots d'or qui sont cachés derrière les mots, derrière les phrases, derrière les non-dits, derrière ce qui est dit, derrière ce qui est supposé. Et Seigneur, nous te remercions de nous l'avoir donné et aussi de nous avoir donné un cœur qui soit humble, suffisamment humble pour accepter d'être à ton enseignement. Amen.